Bonsoir et bon début de semaine à tous. Processus de Luanda, la tripartite entre les présidents congolais Félix Tshisekedi, rwandais Paul Kagame, angolais João Lourenço, prévu dimanche 15 décembre 2024 à Luanda pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC a été annulée. Raison, l'incapacité de la RDC du Rwanda à s'accorder sur un engagement en faveur des pourparlers directs entre Kinshasa et la rébellion du M23, une condition exigée par Kigali mais fermement rejetée par Kinshasa. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a déclaré que le problème s'est posé lorsque le Rwanda a insisté sur l'inclusion dans l'accord d'un dialogue direct entre la RDC et le M23, chose que la RDC a toujours rejetée. Côté Angola, le ministère angolais des Affaires étrangères rapporte que le président João Lourenço, facilitateur désigné par l'Union africaine pour régler cette crise, se dit profondément préoccupé par la situation. Il exhorte les partis à prioriser l'intérêt de leur peuple ainsi que les objectifs communs. Quelle lecture faire de cette situation? Nous en parlons ce soir avec le professeur Moïla Tiembe. Il est directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Professeur Moïla Tiembe, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Martin Ziakwaou, docteur en relations internationales et professeur d'université, il est chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'est de la RDC, auteur de l'ouvrage Accord cadre d'Addis Abeba, portée et incidence sur la RDC. Professeur Ziakwaou, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Aussi avec nous dans ce débat, Christophe Vogel, il est docteur, il travaille sur les dynamiques des conflits en région des Grands Lacs depuis 2008, cofondateur de l'Institut Ebouteli et ancien expert des Nations Unies. Christophe Vogel, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
À Beni, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 92.0. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Annulation de la tripartite Tshisekedi Kagame Lourenço, une réunion qui devait tenter de résoudre la crise dans l'est du Congo. La RDC et le Rwanda n'ont pas réussi à s'entendre sur un engagement en faveur des pourparlers directs entre Kinshasa et la rébellion du M23, une condition posée par Kigali que Kinshasa a catégoriquement rejetée. Cette attitude du Rwanda suscite bien des réactions. Nous vous proposons celle de la ministre des Temps Charles des Affaires étrangères. Thérèse Kayikwamba regrette que Kigali ait choisi de protéger le M23 en lieu et place de choisir la paix. Elle a exprimé son regret lors du briefing des presses hier dimanche qu'elle a co-animé avec son collègue de la communication et médias ici à Kinshasa. La chef de la diplomatie congolaise s'est étonnée que le Rwanda ait conditionné sa présence à Luanda au dialogue entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Je vous propose de suivre cet extrait de la ministre en charge des Affaires étrangères de la RDC, extrait choisi par Blaise Ndongala.
Le problème s'est posé quand le Rwanda a insisté sur l'inclusion justement d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le M23, chose que nous avons toujours rejetée, et que le Rwanda a ajouté à cela la condition qu'un tel dialogue ait lieu avant toute signature d'un accord. Et c'est la raison pour laquelle nos travaux n'ont pas abouti. Et le Rwanda, encore une fois, je le réitère, était devant l'opportunité de mettre fin à ces négociations sur l'accord. Nous avions tous l'opportunité d'adopter ce projet d'accord, mais le Rwanda a préféré privilégier le M23 et a sacrifié la paix et l'accord, en tout cas temporairement, pour plutôt protéger le M23. Je pense qu'il serait utile de retracer le déroulement du processus de Luanda, qui a été lancé en juillet 2022 avec pour mandat spécifique de contribuer à un apaisement des relations entre la République démocratique du Congo et du Rwanda. En 2024, il y a eu un total de 7 réunions ministérielles et j'ai eu l'honneur et la responsabilité de représenter les intérêts de la République démocratique du Congo pendant les dernières 6 réunions.
C'était la Thérèse Kayikwamba Wagner au micro de Blaise Ndongala Mayanda. Mais c'est vrai, après ce rendez-vous manqué ou l'annulation de cette tripartite, quels sont les risques et les conséquences sur les terrains? Alors on va suivre cette analyse que nous propose Martial Papi Moukeba.
La première conséquence majeure concerne l'avenir du processus de Luanda dirigé par l'Angola. En effet, la question du statut du M23 demeure sans réponse. D'un côté, Kigali insiste sur des négociations directes entre Kinshasa et les rebelles, ce que Kinshasa refuse, qualifiant les M23 de groupes terroristes manipulés par les Rwanda. Cela risque de bloquer à ce stade la poursuite des négociations. Une deuxième conséquence serait les risques d'intensification des combats par les M23 sur le terrain dans le but de contraindre Kinshasa à négocier. Depuis une semaine, la rébellion s'est renforcée en effectifs et matériels dans plusieurs zones du Nord Kivu. L'absence d'accord de paix entre la RDC et les Rwanda pourrait également exacerber les tensions entre les deux pays dont les relations se sont considérablement détériorées au cours des deux dernières années. Dans un communiqué, le Rwanda a exprimé sa disposition à participer à un sommet visant à adopter des solutions sérieuse pour résoudre les questions en suspense, notamment celle des FDLR. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Merci Papi Moukeba, professeur Moïla Chiembe. J'appelle que vous êtes directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Encore un rendez-vous manqué à Luanda, alors que presque la majorité des Congolais pensaient que cette fois-ci serait la bonne. Les deux chefs d'État se rencontreraient finalement pour essayer de trouver une solution à cette crise dans l'est de la RDC. Quelle lecture vous faites de ce qui s'est passé à Luanda, professeur?
Oui, Madame Kelly, il faut partir du postulat que ce soit la partie rwandaise ou la partie congolaise ou en face les rebelles ou les terroristes du M23, tout le monde demandait l'impossible. Or, vous savez, lorsqu'on demande l'impossible, devant l'impossible, il n'est tenu. Je m'explique. Concernant le surgissement du M23 qui demande le dialogue, le M23 s'est trompé du moment. Il y a quelques années, une dizaine d'années plus, lorsque le M23 était considéré comme une rébellion, le gouvernement congolais, comme tous les gouvernements, appliquant le droit international humanitaire, a considéré à tort ou à raison que lorsque les Congolais ignorent la loi et qui violentent leur propre pays, on peut, à l'issue de conflits, notamment de guerres, savoir et raison garder, négocier avec eux. Ce qui a été fait. Mais pourquoi aujourd'hui le gouvernement congolais a considéré qu'il n'est plus possible de négocier avec le M23? Mais parce que les choses ont changé. On est sorti d'un conflit armé interne à un conflit armé interne internationalisé. Parce que l'ONU est venu apporter la preuve que l'armée rwandaise, le gouvernement rwandais est derrière le M23, non seulement en matière d'armement, mais qu'il y a des troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ce qui fait basculer ce qui était une 10 ans une rébellion des Congolais à une agression, c'est ce que l'argument que le gouvernement congolais était obligé d'utiliser, l'argument d'agression du pays par une puissance étrangère qui a été couverte derrière le M23. Donc, en demandant que le M23 négocie directement avec le gouvernement congolais, alors que c'était le président Kagame lui-même qui avait souhaité pouvoir négocier avec le gouvernement congolais afin de régler ce problème. On avait cru de bonne foi qu'en dehors d'FDLR, qui était le morceau le plus dur sur lequel le président Kagame insiste depuis qu'il est au pouvoir, surgissement du M23, et c'est quelque chose de surprenant. Mais on peut le comprendre, parce que le M23 avait dit, s'il y a un accord à Luanda, nous on n'est pas liés, parce que ça ne nous concerne pas. Donc on peut comprendre que en exigeant à la dernière minute cette conditionnalité, et que le gouvernement congolais allait refuser, et que l'échec était quasiment assuré. Alors, pour une autre raison, vous savez, madame, depuis que cette crise a commencé, le gouvernement rwandais utilise ce que tout le monde connaît, son soft power, c'est-à-dire son pouvoir de séduction, non seulement parmi les pays africains, mais par la quasi-totalité des grands pays du monde. C'est-à-dire que le gouvernement de la République démocratique du Congo est quasiment seul à son corps défendant, alors que la communauté internationale qui aurait pu insister, comme le fait avec moins de moyens le président angolais et en sourdine l'Union africaine qui n'en a pas les moyens. Et vous voyez bien que en surfant sur ce soutien quasi inconditionnel de la communauté internationale, le président Kagame s'est mis au-dessus du droit international et même des engagements qu'il avait osé prendre. Madame, dois-je rappeler que lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, à la surprise générale, il avait publiquement considéré, déclaré que le président Paul Kagame était son frère et qu'il était venu le moment d'arranger les affaires entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. À l'époque, ses alliés momentanés, les kabylistes, en avaient rigolé, et même à l'est de la République démocratique du Congo, beaucoup de gens étaient courroucés à entendre le chef de l'État nouvellement élu considérer que Kagame était son frère. Et voilà, l'homme qu'on a considéré comme frère, aujourd'hui, les relations entre lui et le président Tshisekedi sont passées de l'état d'ami à l'état de l'ennemi. Et dans ces conditions-là, lorsque les deux présidents se considèrent comme ennemis au sens d'identification des jeux d'intérêt, madame, on peut faire tous les discours, s'il n'y a pas de confiance entre les deux partenaires, notamment les deux présidents, s'ils se regardent en chaîne de faïence, l'un pense que l'autre est contre ses intérêts, donc contre la République démocratique du Congo, et le gouvernement rwandais considère que le président Tshisekedi est en train d'initier un projet non seulement d'envahir le Rwanda, mais de mettre fin au pouvoir du président Kagame. Dans ces conditions-là, on peut bien se réunir, passer devant les caméras, dire ce qu'on peut, mais en réalité, on ne peut pas négocier dans ces conditions.
Professeur Martin Ziakwaou, docteur en relations internationales et professeur d'université, vous êtes chercheur sous les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC, auteur de l'ouvrage Accord cadre d'Addis Abeba, portée et incidence sous la RDC, lorsqu'il n'y a pas de confiance entre les deux personnalités, c'est-à-dire le président de la RDC et celui du Rwanda, on peut tout faire, on ne trouvera pas de solution à cette crise de la RDC, cette crise dans l'Est de la RDC, je voulais dire, selon le professeur Moïla Chiembe. Qu'est-ce que vous avez à dire et comment vous analysez cette situation?
Madame, permettez-moi très rapidement de saluer mes deux co-débatteurs ainsi que les auditeurs. Je voudrais peut-être commencer par faire remarquer que la confiance n'est pas une donnée. La confiance est une construction qui peut aller dans le sens de la consolidation ou de la déconstruction selon les dynamiques sur terrain. Et la confiance en tant que construction relève d'une pluralité de facteurs. Et de ce point de vue, il y a lieu de constater que la relation d'amis a basculé vers une inimitié ne rendant justement pas possible que les partis puissent s'entendre étant donné qu'elles n'ont pas la même perception du problème pour lequel le commun des Congolais, le commun des personnes éprises de paix et de bonne foi voudrait qu'il y ait accord. En d'autres termes, l'accord pourrait servir, pourrait relever, pourrait consolider les intérêts de quelle partie? C'est peut-être ça que je voudrais soulever en introduction pour faire remarquer que le problème de départ, et je l'ai déjà assez dit dans votre magazine, c'est que nous n'avons pas la même perception du problème. Et le problème à la base du processus de Luanda a connu de développements ayant sorti ces processus de sa trajectoire de départ, c'est-à-dire de juillet 2022. Du coup, moi je suis plutôt tenté de questionner non pas les postures des partis se considérant comme étant ennemis, tout en considérant que demain elles pourraient se regarder comme étant amies, mais je voudrais plutôt questionner les postures de la partie, la tierce partie considérée ici comme facilitatrice ou médiatrice pour peut-être exprimer le fait qu'elle ne disposerait pas d'assez de moyens pour exercer assez de pression.
Là, vous parlez de l'Angola.
Je parle de l'Angola pour ne pas le citer. Parce que on ne peut pas arriver à ce point-là sans que finalement l'on puisse questionner d'abord ce que vaut, aux yeux des partis en conflit, la puissance, la respectabilité du médiateur. Et donc, je constate simplement que le problème dont il est question ne relève pas simplement du visible, mais il y a une pluralité, non seulement d'enjeux, des facteurs, mais aussi des parties prenantes, requérant de considérer la problématique sous l'ordre systémique, tel que lorsque on silence, on pourrait se rendre compte que l'Angola ne dispose pas d'assez de leviers pour faire suffisamment avancer le processus dans un sens de construction de la convergence des parties prenantes pour une paix durable. Parce que je suis convaincu que ce dont nous avons besoin, c'est pas une paix éphémère. Il y en a eu, et ça n'a jamais permis de rester longtemps dans cette situation de paix. Et donc, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est pas simplement un accord, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est l'entente des parties pour construire ce qui devrait être durable et profitable aux uns, aux unes et aux autres. Il me semble donc que le problème, de mon point de vue, je le situe à ce niveau-là. Et puisque nous sommes à quelques semaines de la prochaine session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, l'Union africaine ayant mandaté le président angolais, il y a peut-être lieu de questionner la pertinence pour l'Union africaine d'évaluer le processus de Luanda qui remonte quand même à juillet 2022. Ça fait 4 ans et demi et deux ans et demi, on ne peut pas rester sur le même point si on ne sait pas convoquer, n'est-ce pas, questionner les faiblesses du processus, les piétinements du processus, même si quelque peu il y a des avancées, mais on s'est très vite constaté que on fait un pas en avant, deux pas en arrière, donc on est en réalité en train de tourner en rond. Il y a peut-être nécessité d'apporter un peu plus de poids, un peu plus de soutien au processus de Luanda, soutien en termes de levier pour permettre à l'Angola d'exercer un peu plus de pression sur les parties prenantes.
Alors, on retient que pour vous, le problème se situe beaucoup plus au niveau de la facilitation. En une phrase.
En tout cas, madame, dans une négociation distributive, c'est-à-dire consistant à résoudre un conflit armé marqué notamment par des escalades verbales à des niveaux parfois indicibles, je pense que ça ne devrait pas vraiment aller de soi. Et le rôle du facilitateur, c'est justement non seulement de rapprocher les parties prenantes, mais aussi de les amener à contribuer à la résolution du problème. Vous vous rendrez compte qu'il y a quelques semaines, lorsque ce sommet a été annoncé, il y avait de l'espoir. Mais en même temps, c'était l'occasion pour chacune des parties de se projeter sur ce sommet. Il y a toute la pression des opinions publiques. On peut même questionner la politique communicationnelle à la base de la préparation de ce sommet. Peut-être qu'il y a des choses qui ne se seraient pas passées si assez des paramètres, aussi bien au niveau communicationnel qu'au niveau des pressions réelles sur les parties prenantes, étaient prises en compte. Et c'est ce qui m'amène à questionner finalement la portée du rôle de l'Angola et la nécessité pour l'Union africaine d'inventer peut-être un peu plus de soutien à lui apporter. Mais ce qui est vrai, je pense que l'idéal, c'est qu'on puisse avoir un État mondialement puissant pour non pas simplement soutenir l'Angola, mais vraiment assurer le rôle de garant pour contraindre les parties prenantes à revenir sur le tapis vert et avancer dans un processus qui puisse aboutir à un accord.
Merci.
Tant qu'on n'aura pas une partie prenante, un facilitateur, un médiateur à même d'exercer assez de pression sur les parties prenantes, je pense qu'on pourra toujours assister à ces jeux de un pas en avant, deux pas en arrière. Ça relève des stratégies de négociation.
Orlikar Banza, qui nous écrit depuis Likasi dans la province du Katanga, je l'avais déjà dit, mieux vaut le processus de Nairobi que celui de Luanda, car retenez que la perception rwandaise de la situation dans l'est de la RDC n'est pas celle de la RDC, et par conséquent, la situation est utopique. Le président rwandais, Paul Kagame, savait que sa présence à Luanda, je ne sais pas très bien ce qu'il a écrit, c'est une multiple menace prononcée par le président Félix Tshisekedi. Voilà, c'est cet internaute qui nous écrit depuis Likasi dans le Haut Katanga. Serge Mutombo estime, qui nous écrit depuis Kinshasa, estime que la RDC doit se prendre en charge et non commencer à beaucoup crier pour son droit. Christophe Vogel, vous êtes docteur, vous travaillez sur les dynamiques des conflits en région des Grands Lacs depuis 2008. Vous êtes cofondateur des Bouteli et ancien expert des Nations Unies. Vous avez suivi les analyses du prof Moïla Chiembe et du professeur Ziakwaou. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à l'annulation de la tripartite que tout le monde presque attendez, hein, tripartite, Kagame, plutôt Tshisekedi, Kagame et Lorenzo.
Bonsoir, je profite d'abord pour saluer mes collègues professeurs que j'ai attentivement écoutés. Je pense, comme beaucoup d'auditeurs, j'étais moi-même aussi pris par surprise par l'annulation d'un sommet que quand même beaucoup de gens attendaient. Il y a eu toute une série de réunions interministérielles au niveau des affaires étrangères respectives. Il faut dire, malgré les faiblesses du processus de Luanda, qui ont déjà été un peu déclinées par les deux professeurs avant moi, qu'il y avait quand même, au niveau du travail, il y avait une certaine avancée. C'était une avancée certainement marquée par beaucoup de bruit, beaucoup de tensions et certaines animosités rhétoriques qu'on pouvait constater. Mais en même temps, si l'on regarde les différents communiqués des réunions ministérielles qui ont un peu précédé le sommet qui était planifié, il y a aussi eu dans ce processus des terrains d'accord qui était évidemment pas, qui couvrait pas toutes les questions ouvertes. Et c'est donc peut-être plutôt dommage, on peut dire, que ce sommet n'a pas eu lieu, parce que évidemment on a constaté que dans les brouillons d'accords qui ont été préparés, que la question qui a mené à l'annulation, donc la question est-ce que ou pas il devrait avoir une négociation directe entre Kinshasa et le M23, ne figurait pas parmi les points clés, au moins d'un point de vue officiel de ce qui était agréé dans différents communiqués. Mais tout le monde savait que dans les débats, c'était une des questions aussi dont les deux parties ont discuté. Et voyant un peu aussi les deux pays concernés, la RDC d'une part et le Rwanda d'un autre, c'est quand même aussi des pays et des systèmes politiques où la position du président de la République dans les deux pays est assez prépondérante. Ce sont des systèmes présidentiels, ce ne sont pas des systèmes parlementaires comme dans d'autres pays. Donc, de ce point de vue-là, on aurait pu souhaiter justement que cette rencontre ait lieu dans l'optique que des questions particulièrement sensibles, c'est à la fin aussi, d'un point de vue de réel politique, c'est à la fin les chefs de l'État qui sont capables de débloquer ou de trancher. Et dans ce sens-là, c'est peut-être une opportunité ratée. En même temps, je ne partage pas non plus tous les opinions sceptiques ou négatives, parce que pour peut-être reprendre le reportage au début de l'émission de Papi Mukeba, il a mentionné deux risques majeurs. Le premier risque étant la non-continuation des pourparlers. Le deuxième étant le risque de que la situation sur terrain soit affectée. Et je pense qu'évidemment, on voit déjà que sur terrain, notamment dans le sud Lubero, on voit évidemment des mouvements, des tentatives de progression du M23. Mais je pense de l'autre côté, au niveau diplomatique, malgré cet échec diplomatique, qu'il y a un minimum de volonté et aussi clairement de maturité politique des deux États de néanmoins continuer les tentatives de quand même revenir de cet échec et voir ce que le processus peut encore offrir dans le futur.
Alors Christophe Guel, on a vu la présence de l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta qui lui était chargé du processus de Nairobi. On l'a vu être invité à Luanda par João Lourenço. Sa présence pourrait signifier quoi? Qu'est-ce que on peut dire de cette présence à Luanda?
Alors cela est difficile à deviner. Si on regarde d'un point de vue technique, ces deux processus sont, malgré qu'ils se passent plus ou moins en parallèle avec le processus de Nairobi qui était un peu endormi les derniers mois, mais les deux processus ont plus ou moins commencé en parallèle, mais ils sont sur papier très différents. On a Luanda qui est clairement une négociation entre deux États souverains, et on a Nairobi qui est une négociation entre le gouvernement congolais avec tout un nombre de différents groupes armés qui opèrent encore ou qui sont plus ou moins déjà prêts à éventuellement se démobiliser sur le territoire congolais. Il faut dire que le processus de Nairobi a connu pas mal d'obstacles d'un côté, du côté de la facilitation kényane, pour un peu reprendre aussi les interrogations de mon collègue sur le processus de Luanda. Aussi, le processus de Nairobi était entaché par des questions et des soucis politiques liés à la facilitation. Et pour le dire très ouvertement, c'était la position de l'ancien président kényan, Kenyatta, qui est le facilitateur du processus de Nairobi, qui n'est pas en meilleur terme avec l'actuel président kényan. Et ceci a affaibli sa capacité ou sa position par rapport à son rôle de facilitateur. Néanmoins, il est certainement important de essayer de reprendre ces négociations, surtout au vu de la situation qui s'est nettement dégradée au niveau sécuritaire, où justement la crise du M23 a aussi contribué au fait que des des volontés de démobilisation parmi d'autres groupes armés se sont minimisés assez fortement avec toute la dynamique qu'on appelle aujourd'hui Wazalendo qui a contribué à une remobilisation de beaucoup d'acteurs qui se sont engagés davantage sur le champ de bataille.
On va ouvrir notre standard pour prendre les avis de ces Congolaises et Congolais qui nous suivent de partout, partout en RDC, qui veulent aussi donner leurs avis. On va se rendre à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour écouter David plutôt Panfil, l'Océan, nous signale. Saline pose problème, il est là. Alors, on me signale qu'il est en ligne, on va écouter Panfil Ossé.
Panfil Ossé, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Nous avons toujours dit sur ce plateau que le gouvernement congolais n'a pas le choix que de discuter directement avec les mouvements du M23 pour tenter de décrisper la situation de cette guerre injustement nous imposée par les Rwandais. Aussi, il faut noter que sans la présence du M23, nous ne voyons de quelle magie la paix se rétablirait dans notre pays. Cela étant, les facilitateurs n'ont pas assez d'influence pour rétablir la paix si pas les Congolais entre eux. Que notre gouvernement mette un peu d'eau dans son vin, car prendre la décision de ne pas associer les M23 au pourparler ne fera qu'accentuer ou dégrader la situation sécuritaire à l'Est. Que le président ait pitié des sangs de son peuple qui meurt par minute. Discuter avec les M23 serait une des meilleures solutions car il faut partir des causes à effet. Que le gouvernement utilise une approche holistique pour donner la paix à l'Est. Rien ne sert à rester catégorique pour ne pas écouter la revendication du M23. Où est le mal si on aboutirait à la paix à l'Est?
Professeur Mwaila Tchiembe, que pensez-vous du point de vue de cet auditeur qui nous a appelé depuis Kisangani?
Ce qu'il est en train de discuter, il y a deux points importants. La manière dont les dirigeants rwandais, congolais, en l'occurrence le président Tshisekedi et le président Kagame se parlent, ils n'utilisent pas les termes diplomatiques. On est à la limite de l'insulte ou carrément de l'affrontement. Et il est dans ces conditions-là, si les deux hommes d'État se parlent de cette manière et que ce sont eux, parce qu'il faut rappeler, madame, que le processus de Luanda, c'est un processus entre les États. Alors, si déjà les deux chefs d'État se parlent comme ils se parlent, il suffit d'écouter ces discours incendiaires. On a la sensation que l'un ou l'autre ne veulent pas que le processus aboutisse. Parce qu'ils ne veulent pas publiquement se traiter comme ils sont en train de se traiter. Par conséquent, l'autre élément de la réflexion de notre ami de Kisangani, la négociation directe. Nous avions soutenu depuis sur votre plateau et ailleurs qu'il était possible de discuter avec le M23. Mais l'élément nouveau qui est venu disqualifier cette possibilité, c'est parce que le Rwanda a endossé cette responsabilité en disant « Moi, je vais discuter avec la République démocratique du Congo, donc le président Tshisekedi, et régler le problème. » Tout le monde avait cru qu'en dehors d'FDLR, cheval de bataille de M. Kagame depuis qu'il est au pouvoir, il allait discuter de l'affaire du M23 avec le président Tshisekedi pour voir ce qui était possible de faire parce que ce dernier refusait catégoriquement de discuter avec le M23. Alors, pourquoi le M23 surgit en dernière minute? Ben, ça c'est une des réalités de la négociation. Lorsque le Rwanda a tort ou a raison, a prétendu parler aussi de ses propres intérêts et des intérêts du M23. Or, en mettant le cap essentiellement sur l'FDLR, et le gouvernement congolais qui, à l'époque, ne voulait pas aborder cette question de face, le gouvernement congolais a compris qu'il ne fallait pas éluder la question de FDLR. Nous avons rappelé que les FDLR, ce sont des Rwandais qui sont venus au Congo et qui ont eu le statut de réfugiés, donc qui sont sous l'autorité des Nations Unies. Et en conséquence de quoi, s'ils doivent rentrer dans leur pays, on doit leur appliquer le droit international. C'est-à-dire, c'est à ces individus d'accepter eux-mêmes de rentrer dans leur pays. La République démocratique du Congo ne peut pas se substituer à leur volonté. Et du moment où ils acceptent de rentrer dans leur pays, c'est à leur pays, notamment le président Kagame, d'apporter la preuve que ces gens, en rentrant dans leur pays, ils ne pourront pas être soumis à des exactions et éventuellement à la mort. Donc le gouvernement congolais soutiendrait le droit international et aider effectivement à ce que cette question soit résolue. Il y a des années, le gouvernement congolais ne voulait même pas qu'on parle d'FDLR. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a accepté qu'on puisse en parler, ce qui lève l'hypothèque sur l'affaire d'FDLR, parce que les documents qui a été soumis à la discussion, notamment discuté par les chefs militaires, allait dans ce sens-là. On allait vider l'abcès. Alors, pourquoi, parallèlement à cette question d'FDLR qui allait être évacuée, le président Kagame n'a pas souhaité discuter avec le président Tshisekedi de l'avenir d'FDLR, pardon, de M23, qui est tout à fait logique. Or, n'ayant pas discuté ou n'ayant pas voulu en discuter, ben, on arrive à la situation déplorable. Mais la conséquence, c'est que l'autre Congolais, notre compatriote, a dit tout à l'heure, mais il n'est pas exclu, madame, que l'échec de Luanda entraîne la recrudescence des violences. Et dans les jours ou les années qui viennent, c'est vrai, on souhaite tous que ces gens sachent raison garder. Mais du moment où il n'y a plus l'espoir de voir aboutir le processus de Luanda, il est à craindre, madame, que, à tort ou à raison, tous les délinquants armés qui disputent cette partie du pays avec les FARDC et leurs alliés Wazalendo, que les gens reprennent les armes et que la situation probablement échappe au contrôle des deux pays. C'est ça qu'il faut craindre.
Alors, très rapidement, professeur, cet auditeur a parlé de l'influence. Hein. Il estime que le facilitateur n'a pas assez d'influence pour pousser les deux parties à se rencontrer et essayer de trouver une solution pour mettre fin à la crise dans l'Est de la RDC. Le professeur Ziakwaou l'a aussi soulevé dans son analyse tout à l'heure. Il a parlé de la facilitation.
Oui, très rapidement. Oui, rapidement. J'avais parlé du leadership qu'exerce le président Kagame avec le soft power. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que à Luanda, au moment où nous parlons, ou même à l'Union africaine, madame, vous n'avez entendu aucune des grandes puissances soutenir l'option qui était prévu dans cet accord. Pourquoi? Mais le président angolais était seul. Et à partir du moment où à son corps défendant, il n'a pu faire que ce qu'il pouvait faire, bah, écoutez, l'ensemble de la communauté internationale et les grandes puissances soutiennent le président Kagame. Il ne faut pas se voler la face. La République démocratique du Congo est seule. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez que le président angolais, malgré sa bonne foi, puisse bien faire? On est face à une montagne d'Himalaya et des individus qui n'ont pas les moyens d'affronter l'Himalaya. C'est ça la réalité internationale aujourd'hui. Et le président Kagame profite de ce soutien de la communauté internationale pour marginaliser la République démocratique du Congo. Voilà la réalité.
Merci, professeur. Désiré Routa, qui nous suit depuis l'Afrique du Sud, je pense que notre gouvernement doit donc désormais prendre toutes les mesures qui s'imposent pour récupérer les zones passées sous contrôle du M23, car le Rwanda continue de montrer sa mauvaise foi. L'intégrité d'un pays n'est pas négociable. Notre gouvernement doit s'imposer. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle de Goma, au Nord Kivu.
Gratis Ibanga depuis la ville de Goma, en province de Nokibo. En commentaire par rapport à la raconte qui m'a pas eu hier, j'ai dit simplement que les racontes qui se font partout ailleurs ne nous amèneront pratiquement rien. La solution au problème se trouve à l'interne. Donc les Congolais doivent se mettre ensemble et voir comment régler ce problème-là. Donc nous devons équiper nos militaires ukrainiens, équiper nos Azalendo et j'espère qu'ils vont faire un travail et ils vont en tout cas mettre fin à cette guerre qui a beaucoup souffert tous les Congolais qui vivent à l'est du pays.
Professeur Zia Kwaou, un petit commentaire sur les propos des gracieux Kibanja.
Oui, madame, moi je pense que la RDC n'a pas encore actionné assez de leviers pour faire balancer, pour mettre la balance en sa faveur, en ce qui concerne particulièrement la situation de terrain de combat. C'est vrai, nous avons les FARDC, nous avons les Wazalendo, avec tout ce que cela peut soulever comme questionnement, notamment sur le niveau de collaboration entre les deux parties. Et je voudrais surtout mettre l'accent sur un fait historique. C'est qu'en 2004, le colonel Mokeboussi a mené une mutinerie à la suite de laquelle il a réussi à prendre le contrôle de la ville de Goma. Nous sommes à l'époque dans ce qu'on appelait la transition 1+4. Madame, de manière presque spontanée, des jeunes étudiants se sont soulevés à travers le pays, à travers les grandes villes de ce pays, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Kikwit et autres. À l'intervalle de quelques jours, Mutebusi s'est vu contraint de se retirer. Mais je me demande pourquoi on ne réédite pas cette expérience heureuse qui a permis à la RDC de faire face à une situation qui était considérée comme étant inacceptable, puisque à l'époque, nous sommes pendant la transition, le RCD est dans le jeu. On ne comprenait pas pourquoi le Rwanda devrait à nouveau relancer une rébellion. Le système Kabila, je ne veux pas dire, est déconstruit, mais on a quand même réussi à affaiblir ce système et enclencher le processus de son déracinement à la suite de jeunes gens descendus dans la rue, mobilisés devant le Parlement. Et ça a porté des fruits. Et c'est ce qui a amené le président de la République à enclencher les consultations à la suite desquelles il y a eu la formation de l'Union sacrée de la nation. Donc il me semble qu'il y a cette donne que nous ne prenons pas assez en compte. Alors on me dira peut-être qu'il y a des menaces qui les infiltrés puissent en profiter. Non, je n'y crois pas. Ces jeunes gens, ces compatriotes mobilisés constituent en eux-mêmes des remparts. Et je pense que c'est cette mobilisation qui est jusque-là faible qui jouerait en faveur de l'ennemi. Et quand on y ajoute tout ce qui va dans le sens de, je ne dirais pas diviser, mais d'affaiblir l'élan de cohésion nationale, tous les débats de politique intérieure, je pense qu'il y a lieu que les stratèges puissent intégrer cet élément de mobilisation populaire et voir dans quelle mesure y donner véritablement du sens. Ça pourrait contribuer à faire avancer le processus en faveur de la RDC.
On va aller cette fois-ci dans le Haut-Katanga pour écouter ce dernier auditeur qui nous appelle.
Victor Kazadi, depuis la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga. J'estime que le dialogue ne mettra pas fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a eu autant de dialogues par le passé qui n'ont pas abouti à la paix. Et donc, l'unique solution qui reste à la République démocratique du Congo pour mettre fin à la guerre à l'est du pays et ramener définitivement la paix dans cette partie du territoire, c'est de déclarer la guerre contre le Rwanda, car dit-on, qui veut la paix prépare la guerre.
Christophe Vogel, préparer la guerre contre le Rwanda, c'est l'ultime ou la seule solution qui reste selon cet auditeur qui nous a appelé des Likasi. Il estime que les dialogues, les rencontres, les négociations n'ont pas réussi à mettre fin à la crise. Il faut carrément déclarer la guerre.
Alors avec tout mon respect envers Monsieur Kazadi, je pense que si on regarde un peu l'histoire de l'Est du Congo les derniers 30 ans, on a vu beaucoup de négociations, on a vu des accords, on a vu des conférences, etc. Et on est aujourd'hui dans une situation où justement nous n'avons pas la paix. Mais on a aussi vu beaucoup d'opérations militaires, beaucoup d'efforts sur terrain. Et donc on peut constater en quelque sorte que ni les négociations, ni non plus les opérations militaires ont eu un succès entier. Et en ce qui concerne une possibilité de déclaration de guerre de la RDC envers le Rwanda, je pense, je comprends tout à fait le désavouement d'une grande partie aussi de la population congolaise de voir un voisin qui a été impliqué dans beaucoup de rébellions depuis 30 ans. Mais en même temps, je pense que on devrait aussi un peu réfléchir à la situation globale où on a un grand nombre de groupes armés, on a beaucoup de rébellions, on n'a pas seulement les M23, on a des groupes armés comme les ADF, on a des groupes armés comme des configurations de différents groupes armés qu'on appelle CODECO. Donc, en quelque sorte, pour arriver à une paix durable, il faut évidemment trouver une solution avec les différents qui opposent actuellement le Rwanda et la RDC. Et personnellement, je pense, je privilège la parole par rapport à l'arme. Et je pense aussi que à la limite, ça peut être plus durable que d'avoir cherché une solution par la violence. Mais je pense aussi qu'il faut pas oublier qu'on résout les différends entre la RDC et le Rwanda militairement ou diplomatiquement. Ça ne va pas suffire pour pacifier l'Est entier parce que qu'on le veuille ou pas, il y a une topographie de conflits, de groupes armés et d'insécurité qui dépasse en fait le conflit particulier entre la RDC et le Rwanda.
Alors comment vous entrevoyez la suite, Christophe Vogel, de ce processus? Est-ce qu'on peut toujours espérer que les deux chefs d'État se rencontrent un jour et que la question du M23 soit mise sur la table?
Alors, malheureusement, je ne dispose, comme mes collègues professeurs probablement non plus, je dispose pas d'une boule de cristal, mais je pense, je souhaite personnellement qu'il y ait une reprise, que les gens continuent à se parler. Et je souhaite aussi que peut-être le quotidien et la situation de toutes les populations de l'Est du Congo soient aussi davantage mis au centre de ces pourparlers. Au lieu de rester coincé sur des questions liées au gouvernement, des questions nationales ou régionales, je pense que aussi ce processus doit davantage prendre en compte toutes les difficultés et tous les problèmes qui font partie du vécu quotidien des populations spécifiques concernées par le conflit. Et ça, parfois, ça me manque un peu dans le discours, mais aussi dans les prises de position.
Merci. On va considérer que c'est là comme votre conclusion parce que nous sommes à la fin de notre émission. Professeur Moïla TMB, votre mot de la fin, la suite des événements, est-ce que il faut continuer avec ce processus? Faut-il redynamiser le processus de Nairobi pour discuter de la question des M23? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement?
Oui, madame, je pense qu'à notre niveau, nous ne pouvons rien faire d'autre que supplier, supplier, supplier le président Tshisekedi et le président Kagame de savoir raison garder. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rancœur de part et d'autre, mais les deux chefs d'État sont à la tête de deux pays qui veulent la paix, en réalité. Mais ils n'arrivent pas, pour des raisons que nous avons invoquées, à identifier par-delà certains griefs compréhensibles de l'un vis-à-vis de l'autre, l'intérêt supérieur de leur pays. Bien sûr, ils le savent et ils se réclament de cet intérêt national. Mais nous pouvons leur demander de tout faire pour revenir à la table des négociations et essayer. Pourquoi le Rwanda ne présente pas les desiderata du M23 au gouvernement congolais puisqu'il discute avec le président Tshisekedi? Je n'arrive pas à comprendre.
Mais le M23 l'a répété plusieurs fois que le Rwanda n'est pas son représentant à Luanda.
Oui, madame, si le Rwanda n'était pas derrière le M23, le M23 ne serait pas là où il est aujourd'hui. C'est une évidence. Si demain, madame, qu'est-ce qui se passerait-il si demain le gouvernement rwandais, signant l'accord avec le gouvernement congolais, désavoue publiquement le M23? Qu'est-ce qui se passerait? Vous pensez que le M23 mobiliserait les hommes et les femmes pour aller combattre contre les FARDC et les Wazalendo? Non. C'est l'appui du Rwanda qui donne de la substance au M23. Naturellement, le M23 n'est pas seulement le problème du Rwanda. Si, comme ils le disent, ce sont des Congolais, il y a, à un moment ou à un autre, le souci de pouvoir discuter avec les Congolais pour voir qu'est-ce qu'ils demandent. S'ils demandent des choses qui ne sont pas impossibles à réaliser, ben, le gouvernement de la République, souveraineté oblige, a les moyens de droit pour pouvoir régler les problèmes de droit des Congolais, même si les Congolais égarés ont pris les armes contre leur propre armée, ils ont tué, ils ont pillé. S'il est avéré que ce sont des Congolais, ben, le gouvernement de la République peut discuter avec eux. Ce n'est pas exclu.
Merci.
Il n'y a pas de honte à le faire.
Merci, professeur Moïla. Professeur Martin Ziakwaou, votre conclusion. Professeur Martin Ziakwaou.
Oui, madame. J'étais en train de dire que malheureusement, je n'ai pas de proposition à formuler autre que ce que je venais de dire, puisque je pense que mon rôle, c'est plutôt de rendre intelligibles les postures des parties prenantes. Mm-hmm. Et je voudrais quand même souligner très rapidement, madame, que le processus de Nairobi est en léthargie. Inscrire le dossier du M23 dans ce processus suppose qu'il faille le redynamiser. Et cette redynamisation passerait notamment par le rétablissement d'un minimum de confiance entre la RDC et le Kenya qui pilote ces processus. Et nous savons que Kinshasa a plusieurs fois reproché à Nairobi de bloquer ce processus. Donc il y a des préalables qui doivent être remplis pour que ce défi soit relevé. Mais entre-temps, la situation se passe comment? Alors qu'il y a détérioration au niveau tant sécuritaire qu'humanitaire sur le terrain. Donc je pense qu'il y a peut-être cette question de l'intervalle qui devrait être prise en charge au niveau de l'analyse. Et je voudrais peut-être aussi ajouter un autre élément. Il y a nécessité, certes, de coordonner le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a également nécessité de coordonner toutes les initiatives nationales sur la paix, que l'on prenne le PDDR, que l'on prenne le PDDRCS, l'on prenne l'état des sièges, l'on prenne les opérations conjointes avec l'UPDF, l'on prenne les relations avec la MONUSCO. Toutes ces initiatives, madame, ne sont pas encore assez coordonnées. Il se pose donc un problème de planification, de la pacification et de la stabilisation de l'Est de la RDC, en considérant peut-être que ce que fait le Rwanda nous énerve, mais ça pourrait aussi constituer pour nous une opportunité de bâtir une nation dont nous serons demain fiers.
Merci, professeur Martin Ziakwaou. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé, Mimi Kinveté à la mise en onde derrière la caméra, Clément Chimanga et Jonathan Fouanani. Présentation et coordination qui l'écoutait. Retrouvez cette émission sur toutes nos plateformes digitales ainsi que sur notre site internet www.radiokapi.net. Restez branchés sur la fréquence de la paix.